Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles à l'écoute de la tribune de presse de ce vendredi 10 février 2017. Et ce soir, nous parlerons d'abord de la controverse autour des funérailles d'Étienne Tshisekedi. Le gouvernement, par l'entremise de son porte-parole, affirmé mardi dans un communiqué lu à la télévision nationale qu'il couvrirait toutes les charges liées à ses obsèques, alors que le secrétaire général de l'UDPS déclarait dans un point de presse mercredi que son parti politique est indigné par le comportement récupérateur du gouvernement en place. Et puis nous parlerons aussi des dégâts de la pluie diluvienne de mardi dernier à Kinshasa, 4 morts et des dégâts matériels importants. Un bilan dressé mercredi par le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, après un conseil du gouvernement provincial extraordinaire élargi aux bourgmestres et aux experts en matière de climat. Et pour en parler, je reçois dans ce studio Claude Molichou. Bonsoir.
Bonsoir Berry.
Vous êtes journaliste à la RTNT, la chaîne nationale, et aussi coordonnateur des communicologues du 3e millénaire, Alain Botoko. Bonsoir.
Et bonsoir à tout le monde.
Vous êtes journaliste, photographe, reporter indépendant basé à Kinshasa. Et Charles Kipingani, bonsoir.
Bonsoir Véry, bonsoir à tous les auditeurs des Radio Capé et surtout à tous ceux qui m'ont déjà souhaité joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire à vous aussi. Vous êtes journaliste et éditeur du journal Gouvernance Plus, parissant à Matadi dans le Congo central, mais vous êtes encore ici à Kinshasa. Et je salue aussi Paul Badianyama qui a la mise en onde de cette émission, et enfin Kelly Kouté qui nous présente la revue de presse maintenant. Bonsoir Kelly.
Bonsoir, l'UDPS pose des préalables avant les rapatriements de la dépouille mortelle de Étienne Tshisekedi à Kinshasa. La tempête des tropiques affiche en sa manchette les deux préalables de l'UDPS avant le rapatriement de la dépouille. Ce quotidien renseigne que le parti tient à être fixé sur les lieux et la forme de l'enterrement et exige la prise en charge des obsèques par le gouvernement qui sera issu du compromis politique du centre interdiocésain. Au journal d'ajouter, non seulement le corps ne sera pas là cette semaine, la date du rapatriement n'est pas connue et cela pourrait prendre plusieurs jours. Le Phare, pour sa part, s'exclame et titre « L'UDPS se fâche ». Alors que les contacts paraissent fort avancés entre le gouvernement, la famille biologique et l'UDPS pour un programme commun d'organisation des obsèques de l'illustre disparu, c'est maintenant le blocage. Dans une conférence de presse tenue mercredi à la permanence du parti, le secrétaire général Jean-Marc Kabound a souligné deux préalables avant le rapatriement. La mise en place du gouvernement de transition issu de l'accord de la Saint-Sylvestre, la prise en charge des funérailles par le gouvernement de l'Arche de l'Union nationale et l'érection d'un mausolée au centre-ville de Kinshasa. En clair, commente le journal, les cadres de l'UDPS refusent que les obsèques de leur leader soient organisées par le gouvernement Sami Badibanga. Un forum des As regarde la charge écrit, l'UDPS persiste et signe des obsèques de Étienne Tshisekedi au siège du parti. Le parti de la 10e rue limitée fustige ce qu'elle qualifie de récupération politique des funérailles de son président national. Un pavé jeté dans la mare après les dispositions pratiques prises mardi dernier par le gouvernement. Tshisekedi sera pleuré au siège du parti, a martelé son secrétaire général. L'UDPS ajoute qu'elle n'est pas intéressée par l'offre des titres de voyage faite par le gouvernement Badibanga à sa délégation. À travers son titre, l'UDPS se contredit. L'avenir voit dans la prise de position de l'UDPS une forme de chantage. Selon ce quotidien proche du pouvoir, les préalables posés par l'UDPS n'ont pour objectif que de distraire l'opinion. Pour la référence plus, Tshisekedi mort fait plus peur que vivant. À en croire ce journal, des indiscrétions révèlent que plusieurs personnalités prennent déjà des dispositions pour être en dehors de la capitale avant le rapatriement du corps à Kinshasa. La dépouille mortelle du leader Maximo reste une véritable bombe à retardement que Kinshasa doit bien gérer pour éviter l'implosion. Changeons de chapitre pour parler des inondations à Kinshasa. Le bilan provisoire de la pluie de mardi 7 février dernier à Kinshasa est de 4 morts dans la commune de Barumbu, annonce André Kimbuta, gouverneur de la ville de Kinshasa. Ce dernier a convoqué mercredi dernier à l'hôtel de ville de Kinshasa un conseil de ministres élargi aux bourgmestres et experts du climat. Selon André Kimbuta, la priorité du gouvernement provincial est d'inhumer les morts, d'assister les familles éprouvées, d'écurer des rivières et de réhabiliter les infrastructures abîmées. Article que vous pouvez retrouver sur le site de Radio Okapi, www.radiookapi.com. www.radiocapi.net.
Merci Kelly Nkouté. Dans l'actualité de la semaine, vous le savez, le Parlement européen s'est dit une nouvelle fois profondément préoccupé par la détérioration des droits de l'homme en RDC. C'est ce qui ressort d'une résolution sur la crise de l'état des droits en RDC et au Gabon parvenue lundi à Radio Capi. Le Parlement européen déplore notamment le fait que l'espace politique en RDC continue de se restreindre, y compris les actes d'intimidation des défenseurs des droits de l'homme, des opposants politiques et des journalistes. Claude, vous avez suivi cette actualité, comment vous l'avez analysée chez vous?
Voilà, moi en tout cas, je me dis qu'il y a des petits problèmes bien sûr, mais quand même...
Quel genre de petits problèmes?
À ma connaissance, tous les jours, la situation est fait que s'améliorer sur le plan des droits de l'homme au Congo parce que les gens s'expriment librement.
Donc pour vous, le Parlement européen a tort.
Au chef de l'État, il n'y a pas d'inquiétude.
Donc pour vous, vous n'êtes pas d'accord avec le Parlement européen?
Non, il ne faut pas exagérer parce qu'on dirait un petit acharnement sur le gouvernement alors que moi, à ma connaissance, je sais que, en tout cas, le respect des droits de l'homme est là, c'est vécu par tout le monde. Et les gens s'expriment.
Il y a même une amélioration.
À critiquer l'action du gouvernement, à critiquer le chef de l'État et les institutions de la République, ils sont là, ils circulent.
D'accord. Alors, Alain, il y a beaucoup d'analystes qui estiment que le gouvernement devrait considérer le rapport du Parlement européen comme étant une boussole afin de jauger l'état des droits de l'homme en RDC. Est-ce que vous partagez cet avis?
Je crois que le gouvernement n'a pas de choix que de penser ainsi parce que l'Union européenne ou son Parlement est en train de rappeler au gouvernement son rôle légal, celui de protéger les citoyens congolais et leurs biens. Et dans ce rôle-là, le gouvernement est en train de faillir de temps en temps. Vous savez,
c'est... Vous avez entendu Claude dire qu'il y a une nette amélioration.
Je ne crois pas. Peut-être qu'il y a un effort à fournir, mais il y a un grand chemin à parcourir. Regardez ce qui se passe au Kasaï, dans les Kasaï, dans les grands Kasaï, où il y a une milice qui n'est pas suffisamment armée, mais il y a une armée qui vient avec des hélicoptères de guerre, de bombardiers et tout. Vous voyez ce que ça fait. Mais aussi dans nos villes, tout le monde n'est pas libre pour parler comme il se doit. Et les télévisions, les radios d'État, personne ne peut passer pour contredire, pour dire un monde plus ou contredire ce que disent les autorités. Donc, moi, je crois que l'Union européenne est en train de rappeler aux gouvernants ce qu'ils doivent faire. Et ça serait une honte si le gouvernement rejette tout ce que l'Union européenne est en train de lui proposer.
D'accord. Alors, Charles, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, de tout ce rapport? Il n'y a pas que l'Union européenne, il y a eu aussi le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme, il y a eu même aussi une autre organisation, UDH, qui s'est indigné de la situation préoccupante des droits de l'homme, même s'il y a Claude qui rejette carrément ces rapports.
Merci beaucoup, confrère. Permettez-moi de m'acquitter de ces petits devoirs. C'est très important de souhaiter mes condoléances aux membres de l'IDPS et du Rassemblement, mais aussi à mes frères Bakongo qui ont été massacrés. Mmh. Alors, le Parlement européen, à mon humble avis, n'a aucun intérêt de faire les choses de manière complaisante pour parler de la RDC. Ils connaissent bien la RDC. Ils connaissent parfois la RDC mieux que nous qui sommes Congolais. Mmh. Donc, s'ils disent des choses de cette manière-là, je ne vois pas. S'il faut démentir une pareille information, il faut avoir des éléments convaincants, des éléments fiables qui puissent vous dire, vous motiver de contredire un tel rapport. Mais à la manière dont la situation sécuritaire se présente en RDC, je ne vois pas pourquoi et comment contredire un tel rapport alors que les indices sont bel et bien là, que les violences se portent à merveille et se portent bien dans le pays de Joseph Kasavubu.
Joseph Kabila voulait dire
Kasavubu.
Voilà. En fait, il y a aussi, on a entendu au cours de l'émission Dialogue en Congolais, le porte-parole de la majorité présidentielle affirmer qu'il n'y avait pas des statistiques. Le Parlement européen n'avait pas des statistiques qui étayaient son cri d'alarme. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je sais que même c'est parmi les gens qui font la mauvaise campagne de Joseph Kabila.
Je parle du porte-parole de la majorité.
Voilà, oui. Excusez-moi, peut-être tout le monde, parfois, à leur propos, enfonce encore le clou dans la condamnation que la RDC subit face à la communauté internationale ou sinon aux pays qui sont considérés comme des pourvoyeurs de moyens de survie de la RDC. Donc je crois qu'on doit parfois mettre un peu d'eau dans le vin
pour faire de réactions qui parfois frisent encore de confusion ou sinon énervent encore les gens.
Merci. Alors l'autre actualité de la semaine, vous le savez, ce sont ces affrontements qu'il y a eu le week-end dernier à Kimpisi entre les forces de l'ordre et les adeptes du mouvement politico-religieux Bundu Dia Mayala. Selon la société civile de cette cité, donc de Kimpisi, ces accrochages ont causé une dizaine de morts dans la cité. Et aussi, il y a une mission des Nations Unies qui doit aller à Kimpisi pour faire l'évaluation de cette situation. Charles, vous êtes de ce coin de la République. Qu'est-ce qui s'est passé réellement?
Ce qui est vrai, c'est que si aujourd'hui Papi Manté Zolo, mon frère, qui est vice-ministre des ITPR, a été élu député, personne ne peut me contredire que cela a été fait grâce à ses propres efforts. C'est grâce à Nemanda Dlamini. Je ne suis pas membre de ces partis politiques. Donc je crois qu'il devait, en tant que jeune, qui aspire encore à un meilleur avenir, prendre son mal en patience, de supporter tout ce que Nemanda Dlamini allait dire, et mais aussi n'allait pas arriver là d'accepter un poste ministériel. On a formé un gouvernement.
Donc pour vous, le vrai problème, c'est le fait qu'il avait accepté le poste de vice-ministre.
Bien sûr que oui, même s'il y a des raisons qu'on peut encore ajouter, mais le vrai problème, c'est celle-là.
Et ce n'est pas le mariage selon plusieurs personnes qui sont dans ce coin.
Non.
D'accord.
Je sais que Nemanda Dlamini n'avait pas accepté, disons, de participer à ce gouvernement de Sami Badibanga.
D'accord.
Et lui est allé là, et je précise que tous ceux qui ont accepté d'être ministres là-bas sont des chefs des partis politiques. Il est l'un des rares vice-ministres qui n'est pas chef du parti qui a accepté de participer à ce gouvernement.
Merci beaucoup. Alors, Alain Botoko, aujourd'hui, avec tous ces morts, qui, selon vous, devra porter la responsabilité? Est-ce Nemanda Dlamini, est-ce Papi Manté Zolo ou peut-être le gouvernement pour avoir utilisé la force à la place de la dissuasion?
Moi, j'ai une lecture un peu plus globale pour toute cette mauvaise nouvelle qui nous vient de partout. Il n'y a pas que le Congo central, il y a le Kasaï, il y a aussi le Katanga, en fait, l'ex-Katanga.
Avec les pygmées, les bantous.
Justement. Donc, le problème, il est au niveau de la gouvernance d'une manière générale. En fait, la gouvernance est mauvaise et elle est caractérisée par une très mauvaise distribution des richesses. Regarde, la situation de Kimpisi tourne autour de cette richesse qui est en train de se créer là-bas. Il y a des cimenteries qui sont en train de s'installer. Et la plupart des gens qui sont employés là-bas sont des ingénieurs qui viennent de partout, en fait, de l'est du pays, surtout d'ailleurs. Et les autochtones, ils se regardent et se disent, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Alors, ils ont le moyen d'être canalisés, en fait. Le Nemanda Dlamini canalise effectivement leurs aspirations. Il s'est dit, mais écoute, j'ai quand même un peuple que je défends, j'ai un mouvement, même si aujourd'hui le Bunda Congo s'appelle le Bunda Mayala, c'est le même mouvement. Et il s'est dit, bon, écoute, je peux continuer à réveiller déjà.
Mais il n'est pas président de la République.
Mais oui, il n'est pas président de la République, mais il est un leader d'un coin. Donc ce coin, ces hommes, ces femmes l'écoutent et ils se disent, ben au fait, nous, alors, on a un leader, on peut chercher alors à revendiquer notre roi à par les mots que ce leader est en train de mettre.
D'accord. Claude, qu'est-ce que vous en pensez?
Berry, moi je suis vraiment peiné d'entendre mes deux confrères. Bien sûr, ils sont du Congo central. Moi, je ne suis pas de cette province, mais j'ai déjà vécu pendant 3 ans dans la province du Congo central. J'ai parlé d'ailleurs du Congo très bien, même si je ne suis pas mon Congo. Mais moi, je me dis, si nous sommes dans un pays organisé, nous devons être respectueux des textes et des lois qui nous régissent. Aujourd'hui, il y a une nomination du gouvernement Sami Badibanga, Nemanda Dlamini qui a été consulté par le chef de l'État lorsqu'il a commencé les consultations l'année dernière au mois de juin. Tout le monde le sait. Il a été reçu par le chef de l'État. Il a déclaré ce qu'il a déclaré. Tout le monde le connaît et tout le monde le sait. Et il était prêt pour participer au gouvernement. Il demandait d'abord, exigeait d'abord le poste du Premier ministre. Ce n'est pas un secret. Tout le monde le sait. Bon, on dit, moi aussi Claude Moluchio, est-ce que je ne peux pas exiger au chef de l'État le poste du Premier ministre en tant que Congolais? Je n'ai pas toutes les capacités. J'ai toutes les capacités d'exiger le poste du Premier ministre et de devenir ministre. Mm-hmm. Alors, donc, si je ne suis pas nommé Premier ministre, moi Claude Moluchio, ou ministre, et je dois brûler le pays parce que je ne suis pas nommé ministre.
Donc pour vous, c'est une affaire politique?
Non, d'abord, c'est une affaire de respect des textes et de respect des lois, et une affaire interne aussi du parti Bundu Dia Mayala. Ce n'est pas un mouvement politico-militaire. Il peut être leader, il peut
politico-religieux.
Et politico-religieux. Entre Matozolo Papi et son leader, Nemanda Dlamini, ils doivent arranger les choses dans leur cuisine interne. Oui, dans leur cuisine interne. Mais si ça commence à toucher à la vie de tout un pays, de toute une nation, de toute une province, là, les forces de l'ordre ont l'obligation, je dis bien l'obligation d'intervenir et d'instaurer l'ordre et la discipline dans ces coins-là. Mmh. C'est ça la grande question. Nous devons respecter les lois de la République. On peut afficher des ambitions n'importe comment. Si on n'est pas élu, si on n'est pas à ces postes-là, on ne doit pas brûler le pays. On attend les prochaines.
Merci beaucoup. C'est sur cette note que nous allons commencer notre premier thème de la soirée. Mais je rappelle à nos auditeurs qui nous prennent en cours que Claude Moulichou, journaliste à la RTNC et coordonnateur des communicologues du 3e millénaire, Alain Botoko, journaliste, photographe, reporter indépendant basé à Kinshasa, et Charles Kipingani, journaliste et éditeur du journal Gouvernance Plus Parissant à Matadi dans le Congo central, sont les invités de la tribune de presse qui présente Béry Fonkeloutchaka aujourd'hui vendredi 10 février 2017. Le gouvernement et l'UDPS ne semblent pas émettre sur la même longueur d'onde. Dans une communication mardi sur le plateau de la télévision nationale, le porte-parole du gouvernement affirmait que sur instruction du président de la République, le gouvernement couvrirait toutes les charges liées à l'organisation des obsèques d'Étienne Tshisekedi. Pour sa part, dans un communiqué publié mercredi, le secrétaire général de l'UDPS a indiqué que ce sont les familles biologiques et politiques du défunt qui coordonnent toutes les cérémonies irrelatives. Les autres partenaires ne viennent qu'en appui. L'UDPS affirme qu'elle ne reconnaît aucun autre comité parallèle, notamment celui annoncé par le gouvernement. Plus de détails avec vous, Noëlla Luzitu Kabambi.
Lorsque le gouvernement annonce l'envoi d'un avion à Bruxelles en vue de ramener la dépouille ainsi que les membres de famille du défunt, sans oublier l'octroi des titres de voyage sollicités par la famille pour l'ensemble des membres de famille et cadres de l'UDPS, l'UDPS dit ne pas être intéressé par cette offre et pour deux raisons. Le caractère malveillant et ostentatoire de cette offre nous pousse à croire que nous sommes face à des calculs politiques de mauvais goût dont l'objectif est de faire du tapage et marchandage inutiles, affirme le secrétaire général du parti d'Étienne Tshisekedi. Et Jean-Marc Kabunda ajoutait, je le cite, « C'est pour nous l'occasion de rappeler que le seul cadre politico-juridique qui devra régir l'espace politique congolais est l'accord de la Saint-Sylvestre. » Fin des citations. L'UDPS demande la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre de manière intégrale en vue de la décrispation de la situation politique. Elle estime que seul un gouvernement mis sur pied en application de cet accord a le droit d'accompagner le deuil de son président. Pour son secrétaire général, les dates du rapatriement et de l'enterrement d'Étienne Tshisekedi ne seront connues que si deux préalables sont réalisés. Primo, la fixation du lieu et de la forme de l'enterrement, l'érection d'un mausolée au centre-ville de Kinshasa et secondo, la prise en charge de tous les frais liés aux obsèques par le gouvernement de large union nationale attendue.
Merci Noëlla Luzitu Kabambi. Mais avant qu'on entre précisément dans les débats de ce soir, je veux avoir un peu votre réaction par rapport à l'hommage qui a été rendu à Étienne Tshisekedi en Belgique à Bruxelles par tous les hommes politiques de tous les bords à l'étranger. Je commence par vous Claude.
Oui, Béry, c'était spécial. Tshisekedi le mérite parce que c'est un grand homme. C'est un grand homme, on le connaît, et tout le monde dans cette classe politique congolaise est passé par cette école de Tshisekedi, qu'on soit député, sénateur, ministre ou même le premier ministre. Ils ont été tous socialisés par l'idéologie tshisekediste. Même si quelque part ils ont trouvé que ça ne marchait pas, ils ont quitté l'IDPS, ils ont quitté ce mouvement, mais quand même tout le monde est passé par là.
D'accord. Alors
Tshisekedi a quitté sa famille pour être non pas seulement congolais mais aussi international. Parce qu'en fait, à voir ce qui s'est passé à Bruxelles, l'humanité effectivement en parlera pour longtemps et les historiens auront un travail à faire dans la suite. Déplacer les officiels étrangers comme il l'a fait, mais aussi tous les Congolais qui se trouvent en Europe, mais aussi dans d'autres continents, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je crois que tous les Congolais devaient travailler pour que cela ait lieu aussi ici en RDC. Probablement on pourra discuter dans la suite.
D'accord. Charles.
De la même manière que nous avons reconnu Nelson Mandela comme père de la démocratie en Afrique du Sud, c'est de cette manière-là qu'on a reconnu Tshisekedi comme père de la démocratie en République démocratique du Congo. Et ça, tout le monde entier le sait. Donc c'est n'est que normal à ce que tous les acteurs politiques à travers le monde puissent se mobiliser pour honorer la mémoire de ce grand homme.
Et on en vient finalement à cette controverse. Le gouvernement dit qu'il organisera les obsèques, l'UDPS dit que c'est elle qui va organiser les obsèques. Claude, comment vous analysez cela?
Mon cher, c'est déplorable parce que moi je me dis que l'UDPS...
Déplorable
c'est...
de la part de qui?
Dans la situation générale. Parce qu'on ne peut pas vraiment honorer la mémoire d'un grand homme comme c'était de cette façon-là. Moi, je me dis, l'UDPS demande quelque chose de son contraire. Ils disent que non, ils ne sont pas intéressés à l'offre des titres de voyage. Alors que quelque part ils disent que il faudrait qu'on change le gouvernement, que le gouvernement va dire ben, on démissionne et
ça, qu'on mette en place les préalables.
Oui, c'est ça qui pose problème, le préalable. Que Badibanga démissionne avec son gouvernement, qu'on mette en place un autre premier ministre et un autre gouvernement pour que ce gouvernement débloque des moyens.
Mais pourquoi alors
c'est le trésor public.
Mais pourquoi le gouvernement, par exemple, ne s'est pas associé au comité organisateur de l'UDPS?
Non, mon cher ami. D'abord, premier acte, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabang, a adressé un message de condoléances à l'UDPS et il a instruit le gouvernement de prendre à charge
toutes les dépenses
relatives aux obsèques. Et on a mis en place une commission.
Après que l'UDPS ait mis en place sa
commission. Non. D'abord, il y a eu la commission du gouvernement. C'est un jour, 24 heures après, que l'UDPS, à travers Kabunda Kabun, secrétaire général, qui a mis de son côté un autre comité d'organisation des obsèques des
Saintes. On se souvient que l'UDPS a mis en place le comité organisateur le 2 février.
Non, le comité de l'UDPS a été nommé lundi dernier. Nous avons constaté que ils ont posé des préalables qui ne cadrent pas avec la réalité. Pendant que
donc pour vous, le gouvernement ne devrait pas fléchir au préalable de l'UDPS.
Non, c'est à l'UDPS parce que d'abord, le deuil, c'est qu'il appartient à une famille. Même si il est extra-familial, c'est vraiment au niveau international. Mais d'abord, il a sa propre famille. Il a ses enfants, il a son épouse, il a sa famille restreinte. Et le gouvernement a tenu a associé sa famille, son petit frère Monseigneur Gérard Moulumba, évêque du diocèse de Moïka, a été invité par le gouvernement avec d'autres membres de la famille.
D'accord, je vais dire.
On a négocié comment organiser les obsèques. Et lorsque l'UDPS a vu cela, au niveau du parti, non, Kabunda Kabunda, le soir, il réunit son petit comité pour nommer.
Très bien.
Signer une autre décision du parti pour nommer un autre comité.
Je reviens à vous. Alain, comment vous avez analysé cette controverse?
Oui, Tshisekedi dit Nadega que Lumumba dans ce Congo indépendant. Et cette polémique qui est entre le gouvernement et l'UDPS ne s'explique pas. Le gouvernement devait normalement montrer des signes à l'UDPS et au reste des Congolais qu'il est responsable et que cet homme de Tshisekedi s'est bâti toute sa vie, non pas pour ses propres intérêts. Regarde là où il restait. Limité, c'est aucune autorité ne peut accepter de rester là-bas. Et il s'est appauvri probablement pour rendre le Congo fort, riche en pensée, en réflexion, en démocratie. Et alors cet homme qui est honoré par toute l'humanité, je crois fermement que le gouvernement n'a pas à tergiverser, à continuer à parler certaines choses qui énervent le reste de Congolais.
Donc pour vous pensez que c'est le gouvernement qui doit fléchir face au préalable de l'UDPS?
Il n'y a pas à fléchir dans, cher ami. En fait, c'est le gouvernement qui dirige le Congo. C'est le gouvernement qui a le monopole de tout. C'est lui qui dispose des places à enterrer les gens. C'est lui qui donne des garanties pour la... Excusez-moi, c'est lui qui donne des garanties pour les obstacles dignes de son nom. En fait, le gouvernement ne peut que donner ces signaux-là.
Vous pensez que le gouvernement ne donne pas ces signaux?
En réalité, ça ne se donne pas. Ils ne donnent pas ces signaux. Ils ont demandé une place. Dans quelle place c'est qu'il serait inhumé? Jusqu'à maintenant, on ne connaît pas là où il serait inhumé. On a demandé, est-ce que le depuis mortel de Tshisekedi, qui n'a pas voulu que le sang d'un seul Congolais coule, est-ce qu'il n'y aura pas de maître au Congo? En fait, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de clarté. Et moi, je crois fermement que le gouvernement a tout intérêt à comprendre que Tshisekedi a fait tout pour qu'il y ait ce que nous appelons démocratie au
Mais
Congo.
Mais est-ce que finalement, ce n'est pas l'UDPS qui est en train de bloquer la machine, comme l'a souligné Claude tout à l'heure?
L'UDPS est un maillon de Congolais. Il ne canalise que quelques aspirations. Mais si l'UDPS reçoit des garanties du gouvernement, disant que Tshisekedi sera inhumé dans telle place, et que le cortège de Tshisekedi, quand il reviendra, il ne sera pas souillé, il n'y aura pas de casse à Kinshasa, je pense que l'UDPS ne pourra que fléchir et continuer à faire confiance au gouvernement et probablement parce qu'en fait le problème
c'est
ici
c'est que mon frère c'est que sache
s'il vous plaît cher ami vous savez j'étais en train de réfléchir je me dis tu sais qu'Eddy a fait tout pour que il y ait cet accord du 31 décembre et cet accord qui a apaisé qui a donné de l'espoir aux Congolais et la communauté internationale a appuyé cet accord moi je pense pour enterrer dignement ce monsieur, ce grand homme, nous croyons, moi je crois fermement que le gouvernement a tout intérêt, probablement de faire même le premier pas dans l'accord qui a été signé.
Très bien. Alors, Charles, qui de l'UDPS et du gouvernement joue à la récupération politique à entendre les avis de nos deux confrères?
Moi je pense que la récupération s'est faite de part et d'autre.
Comment?
Bien, je vais commencer par le gouvernement. D'abord, le gouvernement en tant que tel, en tant que garant, le président est garant de la nation.
Le gouvernement exécutant
des missions régaliennes dans la gestion de la République. Alors, tu sais qu'il faut préciser qu'il a été à ce niveau-là, il ne s'appartenait plus. Il n'appartenait plus à sa famille biologique, encore moins à sa seule famille politique. C'est pourquoi vous voyez le rassemblement qui n'était pas une affaire privée de l'UDPS. Alors, la récupération au niveau du pouvoir, si le pouvoir ne joue que son rôle, je ne vois pas, en termes clairs, où il faut véritablement condamner ses pouvoirs. Mm-hmm. Mais par rapport à l'UDPS, je me dis que le parti aussi veut tirer la couverture de son côté. Mais aussi, il faut préciser quelque chose. Que les rassemblements n'ont que cette cartouche-là pour faire fléchir le pouvoir.
La cartouche Kabila, de demander à Joseph Kabila de nommer le premier ministre.
Oui, bien sûr que oui. De donner le préalable. Parce qu'ils savent, et je vous dis, c'est un effondrement qu'on va connaître au niveau de l'opposition congolaise, au niveau du rassemblement, avec l'absence de Étienne Tshisekedi. Ils savent
vous êtes déjà pessimiste.
Qu'après le départ d'Étienne Tshisekedi, il y a le niveau qu'occupait Étienne Tshisekedi dans ce pays, le niveau d'intégrité, s'il faut le dire en ces termes-là, ils ne sont pas nombreux pour agir de cette manière-là. Donc, pour essayer de gagner un peu le pari par rapport à ses pouvoirs qui ne sait pas faire de concessions, il lui faut monter un peu les enchères pour obtenir gain de cause par rapport à toutes ces négociations.
Monter les enchères sur le cadavre de
malgré eux. Donc, c'est tout ce que moi j'ai compris. Donc, c'est une récupération systématique, mais ils envisagent quelque chose. Ça, c'est par rapport à la bonne réflexion qu'il faut faire par rapport et la bonne lecture des choses qu'il faut faire par rapport à cette situation.
Mais selon l'UDPS, c'est plus la pression de la population de la base qui estime qu'il ne faudrait pas entrer en contact avec le pouvoir.
Au départ, c'était une rumeur. Au départ, c'était une rumeur qui est devenue une réalité. Et ça se trouve maintenant dans les documents. Donc, l'IDPS ou le rassemblement trouve que le seul moyen d'obtenir gain de cause par rapport à ses pouvoirs, c'est de monter un peu les enchères, de donner beaucoup un peu plus de préalables. Face à ses pouvoirs, j'aimerais, les amis ont fait plus de temps que ça, et face à ses pouvoirs qui n'a pas voulu obtempérer. Et là, je précise une chose, permettez-moi. Il n'y a pas eu de gagnants, encore moins de perdants aux élections. Je suis dans la profonde désolation de constater que ce pouvoir continue à maintenir le peuple congolais en otage. Pour dire qu'il y a quand les Congolais ont consommé la violation de la Constitution, le dépassement des débordements des mandats du président de la République, les glissements à grande échelle et géants du président de la République, là, il n'y a pas eu de problème d'interprétation de la Constitution, on n'a pas violé la Constitution, là, la Constitution pour eux a été respectée. Et la Constitution est claire, et même si on n'est pas juriste, on peut lire qu'on n'a pas organisé les élections 90 jours avant, là ça ne pose pas de problème. Mm-hmm. Et quand c'est les autres qui disent qu'on présente, par exemple, je ne suis pas du rassemblement, mais j'ai fait la lecture de manière réaliste, mm-hmm. et on présente un candidat pour que vous puissiez nommer. Non, il faut s'en tenir au principe. Alors que juste au jour d'aujourd'hui, le président de la République devait se retrouver au Sénat.
Alors, très bien. Maintenant, alors pour aller rapidement, parce que dans moins de 15 minutes, on finira cette émission. Comment il faut faire pour sortir de cette impasse, Claude?
Moi, je pense qu'il n'y a aucun problème qui se pose sur le plan, les lieux. il est question tout simplement de se remettre en cause, d'être logique vis-à-vis de soi-même. Pensez-vous, Béric, aujourd'hui, si Badibanga démissionnait aujourd'hui, et même si Joseph Kabila Kabange signait une ordonnance portant nomination d'un autre Premier ministre issu du Rassemblement ou de l'UDPS,
ce serait un signe.
Écoutez, ce Premier ministre sera capable de former son gouvernement aujourd'hui.
Et aujourd'hui, vous avez déjà entendu la réponse de Alain.
Il sera investi aujourd'hui et pour que. Parce qu'on exige que le gouvernement, autre que celui de Badibanga, puisse débloquer les moyens.
Voilà.
Pas le gouvernement de Badibanga. C'est-à-dire que. Non, j'ai la parole, papa.
Oui,
j'ai la parole. C'est-à-dire que ce n'est pas à Badibanga de débloquer l'argent, même si l'argent qui proviendrait de Badibanga et même du gouvernement, de notre gouvernement issu de l'UDPS, c'est le trésor qui va débloquer ces moyens.
Oui, mais
on
comment sortir de
justement,
la question c'est comment sortir de cette impasse. On n'a pas beaucoup de temps. Comment sortir de cette impasse selon vous?
Ce qui a été fait.
Donc pour vous,
il faut que la famille et le gouvernement se mettent ensemble.
D'accord.
Nous sommes en train de pleurer un grand homme. Ce n'est pas le moment de faire valoir ses ambitions pour qu'on devienne ministre, parce qu'il y a déjà qui festoyaient déjà pour devenir ministre.
J'ai
pas dit même leur nom ici, parce que la CENCO avait dit que non, d'ici là,
très bien.
On va attribuer
alors,
les ministères.
Comment
aux gens. Nous devons être
faire
conséquents vis-à-vis de nous-mêmes.
Très bien, il faut être conséquent. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette impasse?
Vous savez comme moi, mais aussi parmi les auditeurs qui nous suivent, ils savent que notre gouvernement, le gouvernement actuel, ne respecte pas assez ses engagements. Ça, c'est connu. Et alors, le rassemblement veut se rassurer effectivement que le début de l'application de l'accord commence déjà avant que Tshisekedi soit enterré. Parce qu'en fait, c'est lui qui est l'auteur de cet accord-là, de ces accords-là, du 31 décembre. Et alors, ils veulent voir. Mais, l'ami est en train de poser les conditions. C'est comme si nous étions dans l'état normal. Nous sommes dans une période transitoire, une période spéciale, exceptionnelle. Il ne faut pas, à des périodes comme ça, il faut de situations, de résolutions exceptionnelle. En fait, le gouvernement a tout intérêt, en fait, Joseph Kabila, aujourd'hui qui est à la tête de la nation, a tout intérêt à nommer le monsieur que Tshisekedi a laissé l'enveloppe auprès de Senko, je ne sais pas qui son nom. En fait, là, ça aurait été un grand signe et le peuple l'applaudirait, je crois, avec beaucoup d'honneur et
d'accord.
On va enterrer notre père de la démocratie. Parce qu'en fait, il n'est pas seulement père pour nous, il est aussi père pour nous, pour les autres.
Débloquer
l'argent. En fait, ce n'est pas un problème d'argent, le problème est d'apaisement, monsieur. Pourquoi ici, dans ce pays, on tourne tout l'argent?
Très bien, alors,
c'est pourquoi on a tenu sur le pays.
Oui, voilà, Charles, ok.
Non, c'est moi qui ai la parole.
Voilà, Charles, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cet impasse?
Je pense que le gouvernement doit être encore beaucoup plus responsable. Et les amis du Rassemblement, les amis du Rassemblement doivent savoir négocier les choses. On ne doit pas monter des enchères derrière la mort de Tshisekedi. Il faut qu'on respecte quand même ce grand homme qui a mené un grand combat pour le Grand Congo. Mm-hmm. Et je dis qu'on a parlé d'un régime spécial. Nulle part dans la Constitution, on a stipulé qu'il faut qu'il y ait un régime spécial. Et c'est là où j'interpelle une fois de plus les gouvernements. De comprendre que dès lors qu'ils ont inventé des choses, un dialogue qui n'a jamais été dans la Constitution, à la fin du mandat, il n'y a nulle part dans la Constitution, on a dit qu'à la fin du mandat, il faut organiser un dialogue. Nulle part. Nulle part dans la Constitution, on a dit qu'à la fin du mandat, il faut un régime spécial. Donc, quand on est à ce stade ici, il faut que les uns les autres mettent un peu d'eau dans leur vin pour comprendre que nous Congolais qui avons donné la légitimité à Joseph Kabila, nous l'avons déjà retiré le 19 décembre. Tout ce qu'ils font là, c'est leur manœuvre. Même ces députés qui doivent intériner le gouvernement, on a déjà retiré le mandat. Donc s'ils doivent faire des choses, il y a des membres de la majorité qui clairont à travers les médias qui comme quoi donc le gouvernement doit être investi, le premier ministre qui doit être nommé doit avoir une majorité au Parlement, c'est très important. Quelle majorité vous pendant que ces députés-là sont déjà hors mandat.
Merci.
Et nous, on est en train de faire les choses de manière spéciale.
Voilà.
Donc, je crois
alors,
que ce sont les concessions, s'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole, ce sont les concessions maintenant qui doivent être chacun, chaque camp, doit mettre des vins dans son vin. Les
de l'eau dans
votre vin. C'est la concession qui est au-dessus de toutes choses.
Voilà, merci beaucoup. Et merci beaucoup, messieurs. C'est sur cette note qu'on va entamer le deuxième thème de la soirée parce qu'on n'a plus beaucoup de minutes. Nous parlons maintenant des dégâts de la pluie de mardi dernier à Kinshasa. 4 morts et des dégâts matériels importants. C'est le bilan provisoire des inondations de mardi dernier dans la ville de Kinshasa. Bilan donné par le gouverneur André Kimbuta après un conseil de gouvernement provincial extraordinaire élargi aux bourgmestres et aux experts. On écoute André Kimbuta donner plus de détails au micro de Jocelyne Moussaopoundé.
C'est d'abord l'inhumation de ces 4 Kinois qui sont décédés, l'appui à ces familles, ensuite curer ces rivières qui sont à la base de tout ce que nous avons connu, Kalamu, Makelele, même la Gombe, réhabiliter les routes telles que Kulumba à Kingabwa et la route Pélène aussi à Massina qui a connu des dégâts. La route d'Impassa également, la route qui mène vers la décharge finale, elle est coupée. Et la nationale numéro 1, bien qu'elle n'étant pas de la compétence de la province, vous savez que la nationale numéro 1 vers le cimetière Benseke, au-delà, elle est coupée. Et intervenir aussi pour les écoles et les centres médicaux qui ont connu des dégâts. On commence parallèlement la lutte anti-érosive parce qu'il y a vraiment menace dans la ville.
Claude, comment vous avez analysé les dégâts de cette pluie?
Moi, je suis triste, Béry, parce que, ce n'est pas la première fois que nous enregistrons ces pluies d'hiver à Kinshasa qui causent des dégâts humains, matériels.
Même la nationale numéro 1 a été coupée.
Je vous dis, s'il faut continuer à enterrer des morts chaque fois qu'il y a de fortes pluies à Kinshasa, c'est déplorable pour un gouvernement provincial, dirigé par André Kimbuta Yango, et l'Assemblée provinciale, qui est dirigée par Nsingi Bemba à côté, ne fait absolument rien pour interpeller ce gouvernement et donner les orientations, voire d'abord faire d'abord l'évaluation de ce qui a déjà été fait par rapport aux dégâts précédents, pour essayer un peu de projeter et puis de sécuriser. Parce que des dégâts, ça fait partie de la sécurité de la population. Aujourd'hui, quand il pleut, on est assez en insécurité. Des câbles, des
surtout vers Kogelos là-bas, vers Mongafula.
Même la commune de la Gombe, c'est partout à travers. Nous sommes sur un terrain sablonné. La ville n'est pas urbanisée. Ces pluies relancent les débats sur l'urbanisation de la ville de Kinshasa, qui n'est plus urbanisée.
Mais est-ce qu'il doit faire ce travail? Est-ce que le gouvernement provincial ou le gouvernement national?
Non, il y a des routes qui relèvent de la compétence du gouvernement central, comme la nationale numéro 1, bah, il passe jusqu'à l'aéroport Bandundu, en allant vers de Kassai jusqu'au Katanga. Et il y a des routes au niveau de la capitale, Kinshasa, qui relèvent de la compétence de la ville, de l'hôtel de ville de Kinshasa. L'hôtel de ville de Kinshasa a des moyens, ou le gouvernement provincial de Kinshasa a des moyens conséquents. Je peux les citer.
D'accord. Alors,
plein des moyens, il y a des marchés, il y a des boutiques, il y a des grandes entreprises, il y a les particuliers. Donc, le gouvernement provincial ne peut pas manquer des moyens. Il doit faire l'évaluation, soit trimestriellement, soit semestriellement, pour dire que non, dans ces 6 mois, voilà, nous prenons plus que 2 kilomètres de route asphaltée. On doit construire l'avenue Lengesa, par exemple, qui est un axe très important. Et ça peut désengorger la fin de l'université.
Très bien.
On peut prendre, par exemple.
Donne-nous la parole.
Donne-nous la parole. Je ne sais pas sur ce sujet, Berry.
On est régulièrement
pour chaque fois qu'il y a des fortes pluies, on reste des morts. Et puis on dit, on va aller enterrer les morts.
D'accord.
C'est
alors,
pas responsable.
Alain, plusieurs analystes du secteur de l'environnement disent que si les inondations il y a à Kinshasa, si inondations il y a à Kinshasa, c'est beaucoup plus par rapport à la gestion des déchets. Qu'en pensez-vous?
Moi-même, je fais trop de recherches sur la gestion environnementale. J'ai écrit beaucoup d'articles même sur les immondices qui inondent la ville de Kinshasa. Kinshasa, au départ, quand l'homme belge, le colon, partait, il a laissé la population à autour de 400 000 personnes. Et ils ont construit des infrastructures pour 400 000 personnes. Et vous imaginez, 400 000 personnes, ce sont des petites routes et les canalisations d'eau sont petites. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 10 millions, en fait 11 millions, selon les dernières statistiques que j'ai. 11 millions de personnes, vous partagez les mêmes infrastructures de 400 000 personnes. Vous voyez ce que ça demande. Les rivières actuelles, il faut pas parler de qui crée ou de. Il faut rentrer dans la gestion normale de la situation. Mettez tout autour de rivières, de petites forêts et l'eau va circuler comme il se doit. Au lieu d'occuper anarchiquement tout le terrain et le problème de l'urbanisation de Kinshasa pose, c'est un sérieux problème.
Mais donc, qui va prendre en charge, c'est ça le problème. Claude fait déjà référence au gouvernement provincial qui ne manque pas de moyens, qui doit mettre des moyens en jeu.
Tout de suite, je réponds à Claude que le gouvernement provincial n'a pas de moyens. Moi, j'étais à Lagos il y a quelques années. Il y a un plan pour Lagos, pour reconstruire Lagos et rien que pour les routes, les trains et les petits bateaux qui circulent les lagunes de Lagos, le gouvernement a mis avec les privés 20 milliards de dollars américains pour faire face à ces problèmes. Vous savez, le budget des gouvernements provinciaux, c'est autour de 500 millions. 500
D'accord.
millions, ça représente rien.
On revient à vous pour la conclusion. Alors, Charles, le gouvernement
provincial a des moyens.
Voilà, alors très bien,
Charles. Nous vivons, c'est ce que nous
donnons
vivons.
Donnons quand même la parole à Charles, s'il vous plaît, les amis. Donnons quand même la parole à Charles. Voilà, Charles, rapidement, comment vous analysez, surtout que la météo annonce qu'il y aura encore plus des fortes pluies dans les jours à venir.
Berry, avec tous nos auditeurs qui nous suivent à travers le monde entier, je dis que je suis scandalisé de ce que j'ai qualifié de folklore sorti de la bouche du gouverneur de la ville de Kinshasa. Il faut qu'il ait des caniveaux. Il va commencer à faire des leçons gens aujourd'hui. Je connais la voie qui mène à la maison, à la résidence du bourgmestre de la commune de Kalam. Mais vous ne pouvez pas y aller quand il pleut. Même après la pluie, vous ne pouvez pas accéder. Il y a un bourgmestre qui habite là-bas. Une fois André
Kimbuta est passé... Et on connaît aussi la canalisation pour aller vers le bureau du gouverneur de la ville de Kinshasa.
Voilà. Une fois le gouverneur est passé à la télévision pour dire « Moi, je remets à mes bourgmestres 12 millions de francs congolais chaque mois. » Il a dit ça. Je crois qu'il y a là, il en, plus d'une année passée. J'étais ici à Kinshasa.
Qu'est-ce qu'il en fait?
Écoutez, quand un gouvernement doit construire des immeubles qui coûtent plus de 40 millions de dollars américains, alors qu'il y a des choses qui ne demandent même pas 1 million de dollars. Et on laisse la situation pourrir comme ça. Au Rwanda, où j'ai déjà été, qu'est-ce que le Rwanda a de plus dans son mental pour faire de sa ville une ville sans sachet? Aujourd'hui, les inondations qui ont causé la mort de mes frères, mes compatriotes de Boma, c'est grâce à quoi? Parce qu'il y a un laissé-aller. Il n'y a pas une politique de gestion de l'environnement. Le ministre de l'Environnement est dans son bureau climatisé. Chez moi, dans mon secteur à Tsangracid, ce sont des membres, des volontaires regroupés autour de l'ONG Action pour la gouvernance locale qui s'occupent de l'entretien de leurs routes. L'État congolais est démissionnaire. Et pourquoi avoir un ministre de l'Environnement? Alors, je suis scandalisé. Et pour des choses comme ça, ce sont des vies humaines. À un moment, ils sont allés intervenir. Non, il faut qu'on puisse. Il y a même des ONG qui ont récupéré la situation. Il faut faire des collectes de fonds parce qu'il faut venir au rescousse des sinistrés de Boma. Mais quel est ce gouvernement qui doit d'abord voir la situation et pourrir et puis venir avec une soi-disant intervention pour de l'argent qui aurait servi à autre chose? C'est pourquoi nous, d'ailleurs, nous nous sommes dit que la première des missions que nous devons faire, c'est désachétiser notre environnement. Et c'est la moindre des choses.
D'accord.
Que le gouvernement aurait dû faire. On n'aurait pas vécu toutes ces histoires qui sont parfois qui humilient même notre pays.
Voilà, alors en guise de conclusion maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour finalement éviter ces inondations, ces érosions, etc. Qui doit mettre finalement des moyens? Qui devrait avoir cette volonté-là? À vous, Claude.
Berry,
rapidement, on arrive déjà à la fin de notre émission.
Berry, avec tout le respect que j'ai donné aux autorités de Radio Capi, je dirais d'abord qu'il faut mettre de côté tous ces gestionnaires-là au niveau de la ville.
De côté, c'est-à-dire en prison ou bien...
On les met à l'écart de la gestion de la chose publique. Et que ce soit le gouvernement provincial, que ce soit l'Assemblée provinciale de Kinshasa, on les met de côté et vous verrez qu'il y aura une autre dynamique nouvelle pour construire des infrastructures et essayer un peu de sécuriser la population. Parce que nous sommes sur un terrain sablonné. Les experts l'ont démontré plus d'une fois. Et le gouverneur et les membres de son gouvernement provincial et même l'Assemblée provinciale qui ne fait absolument rien, il sait que j'ai dit,
donc,
il ne fait absolument
rien. Le gouvernement doit tomber, c'est ça pour la solution.
On doit effacer cette classe politique et renouveler la classe politique. Et nous, les jeunes, nous avons des initiatives et nous allons construire cette capitale et dans peu de temps, les choses vont changer.
C'est ça aussi votre conclusion. Alain, votre conclusion.
Oui, moi, je ne vais pas résumer la chose, les catastrophes à la capitale. En fait, c'est tout le pays. Donc, il faut qu'il y ait un aménagement territorial du Congo. C'est lié, conçu. À 67, Mobutu a essayé, il n'a pas. À 2014, ici, on a écrit des papiers. Il faut qu'on passe à l'action. Parce qu'en fait, avec les changements climatiques, les catastrophes vont se multiplier. Et si on n'a pas un plan général pour gérer le pays d'une façon durable, donc nous allons continuer à pleurnicher, à pleurer nos morts. Et les hommes n'aiment pas ça. Ils vont se révolter.
Ce sera ça votre conclusion. Voilà. Charles, votre conclusion rapidement. On arrive à la fin de la présentation.
Il faut que la population congolaise comprenne que nous sommes en face d'un gouvernement qui utilise l'argent des Congolais à mauvais escient. Donc, un pays riche, comme la RDC, doit vivre de telles situations, je suis désolé. Alors, la solution que je peux proposer,
c'est de sanctionner tous ceux qui sont incapables de gérer les pays.
Exactement ce qu'a dit Claude.
Et de le renvoyer en congé politique.
Merci.
Quand on pense que la politique est devenue une affaire de la famille, on est là le matin, on est là le soir, on fait des bêtises, même dans sa chambre, on gère les choses du pays. Donc je pense que ce n'est pas normal et nous devons être responsables pour que le Congo devienne réellement un pays fort et prospère.
Merci beaucoup,
Tessra. Et des élections en 2017.
Tessra aussi, la fin de cette tribune de presse très animée par Claude Molicho, Alain Botoko et Charles Kipingani. Merci à Paul Badenyama qui est à la prise de son, assisté par Alex Clay. Merci à Kéline Kouté qui a coordonné cette émission supervisée par Pele Kipelamondo, Berry Franklin Luchaka. Je vous dis merci et rendez-vous déjà à partir de lundi dans Dialogue entre Congolais. Et retrouvez votre émission sur www.radiocapi.net. Bye bye.